France.
France Musique. France Musique, il est 16h. Quelle version retiendront les invités de Jérémy Rousseau ? France Musique. La tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau.
Au programme cet après-midi, Mozart, le 25e concerto pour piano. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la tribune des critiques de disques. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi avec ce 25e concerto pour piano de Mozart qui n'a pas été au programme de la tribune depuis très longtemps, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous sommes ravis cet après-midi d'accueillir pour la première fois à la tribune Béatrice Mutelet. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Vous êtes altiste, alto solo du Mahler Chamber Orchestra et de l'orchestre du festival de Lucerne, voilà. Bienvenue. Bienvenue également à Alain Lompèche, qui n'est pas violon solo mais qui
non.
Critique solo, voilà.
Rien
vous êtes un peu quand même pianiste, peut-être un petit peu comme Jérôme. Oui. Vous êtes donc critique, faut-il le rappeler, à Classica et à Backtrack.
Oui. Et à pianiste.
Et à pianiste aussi. Et Jérôme Bastianelli, bonjour Jérôme.
Bonjour Jérémy.
Critique à Diapason, qui a peut-être chroniqué ce concerto par le passé. Oui, bon. On va y venir. Avant de nous y plonger, je rappelle que la semaine dernière, c'était la 8e symphonie de Dvorak qui était au programme, avec un duo serré entre la version de Raphaël Kubelik à la tête de Berlin et l'orchestre de Pittsburgh dirigé par Manfred Honeck. C'est la version de Manfred Honeck qui avait été choisie lors de l'émission, mais vous qui avez pu voter pendant quelques jours sur le site de France Musique, à 48% vous avez voté pour Kubelik. C'est une victoire très nette, même si notre auditeur, qui s'appelle Denis Raffin de Montlouis-sur-Loire, nous dit qu'il a voté, qu'il a placé la version de Manfred Honeck en tête. Elle tient une bonne place dans ma discothèque depuis quelques temps, comme c'est Bruckner d'ailleurs. Il a un argument supplémentaire que personne n'a relevé pendant l'émission. La prise de son est superlative. Le grave est généreux, les aigus sont doux, la spatialisation est précise et immersive. On sent que la couleur d'ensemble est aussi due à la post-production, qui ne joue pas la carte de la neutralité. Dans les Bruckner, la couleur est la même, mais il y a en plus une énorme dynamique qui fait un peu sursauter. Là, c'est plus raisonnable. Du très bon travail, voilà. Et notre auditeur gagne le disque de la semaine qui était la 9e de Dvorak par Nathalie Stutzmann à la tête de l'Atlanta Symphony Orchestra, un disque paru chez Erato, et cette semaine, pour Mozart, c'est le Requiem de Mozart par Pygmalion, Raphaël Pichon, c'est un double CD paru chez Harmonia Mundi. Je précise également, j'ai oublié dans votre parcours, Béatrice Mutelet, que vous avez été l'alto du Quatuor Capuçon pendant bon nombre d'années. Oui. Ce 25e concerto pour piano de Mozart, on va laisser parler la musicienne que vous êtes, et j'espère que durant cette émission, vous nous apporterez votre expertise. Au Mahler Chamber Orchestra, à l'orchestre du Festival de Lucerne, j'imagine que vous avez joué ce 25e concerto pour piano.
Je l'ai beaucoup joué. Il y a 2 ans, on a fait une tournée avec Mitsuko Uchida de ce concerto-là avec le 27e.
Oui.
Donc, aux États-Unis, au Japon, je l'ai beaucoup joué. Donc, il y a 2 ans, mais on l'a joué auparavant aussi avec Piresh, il me semble, à Badeau. Je l'ai joué avec Paul Lewis au Proms en 2013, avec Daniel Harding, enfin, de nombreuses fois dans mon parcours.
Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris de ces chefs que vous avez cités à Badeau, par exemple, dans ce concerto en particulier? Les trucs, peut-être, qui vont guider, je ne sais pas, l'écoute de nos auditeurs.
Ah, je ne sais pas. À Badeau, avec Mozart, il a une vision très classique. Donc, c'est pas quelque chose qui va bouger les meubles, on va dire, je trouve, dans ce répertoire-là. Mais magnifique, d'ailleurs, il y a un enregistrement avec Martha Argerich qui est très beau. Je n'ai pas joué là-dessus, c'est l'orchestre Mozart. Mais les versions qu'on a faites là avec Mitsuko Uchida, c'est sans chef. Et j'adore cette proximité à l'artiste. Où c'est très direct, c'est comme de la musique de chambre. Il n'y a pas de tiercité. Personne ne s'interpose entre nous et la partie du solo. Et puis elle nous parle énormément de sa vision du morceau. Et c'est... c'est édifiant.
Bon.
C'est pourtant un concerto très symphonique.
Un concerto
c'est
très
le
symphonique.
Plus symphonique de tous.
Oui.
Donc sans chef, c'est...
Il a été terminé en décembre 1786. C'est une année très, très riche, hein, notamment les Noces de Figaro. Mm-hmm. Il y a la symphonie Prague qui a été composée, je crois, terminée quelques jours avant. Il y a deux autres concertos également durant cette année-là. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique pour vous? En quoi vous l'aimez, ce concerto, Alain Lempêche? Très rapidement. Vous avez 5 minutes. Une minute, 30 secondes.
C'est beaucoup, 30
secondes. Attention.
Non, parce qu'il a un caractère symphonique. Ouais. Et le premier mouvement à une forme de développement symphonique que n'ont pas les autres concertos de Mozart. C'est presque un peu le pendant de la symphonie Jupiter, pour aller
d'accord.
vite.
Mm-hmm. Jérôme Bastianelli, une version de chevet ou deux, allez.
Écoutez, on va dire Brendel avec Maqueras, par exemple, ou Serkin,
ouais.
ou Péraïa.
Oui, ah, Péraïa, bon. Voilà, on va voir. On va
sans
voir.
Doute d'autres que
alors,
j'oublie, là.
Ouais, mm-hmm. Oui, sûrement, peut-être qu'on va en découvrir d'autres.
Sûrement.
Hein. J'ai, dans les archives de la Tribune, réalisé que ce concerto n'avait pas été, sauf erreur, hein, en filtrant toutes les archives, n'avait pas été à l'affiche de la Tribune depuis Armand Panigel, c'est-à-dire 1982-83. Donc les versions que vous allez entendre, c'est un peu ce qu'il y a depuis. Enfin, une sélection, bien évidemment. Mm-hmm. Hein. Voilà, voilà le cadre à peu près de cette écoute. Il y aura 3 extraits correspondant à chacun des 3 mouvements. Début du premier, début du deux, et le troisième, on n'entendra pas le début, mais un très très beau passage de ce 25e concerto qui est en ut majeur. Le premier mouvement est noté Allegro maestoso. Pardon. Si vous êtes prêts, tous les 3, Alain Lempêche, Béatrice Mutelet, Jérôme Bastianelli, voici sans plus tarder un extrait du premier mouvement, les 4-5 premières minutes environ, dans la version A. Thank you. La version A du premier mouvement, extrait du premier mouvement du 25e concerto pour piano de Mozart. Jérôme Bettanelli, là, comme ça, tout de suite, vos impressions?
Elles sont très positives. J'ai beaucoup aimé à la fois l'orchestre et le piano solo. L'orchestre, avec cette ouverture, cette impression de rideau, de théâtre ou d'opéra qui s'ouvre sur un paysage solennel avec les vents qui gazouillent comme au premier matin du monde. Et puis après, le deuxième thème, un joli contraste avec le deuxième thème plus chambriste. Et l'entrée du piano, ce mélange de discrétion, s'y rentre comme si quelqu'un qui appuie sur une sonnette à l'entrée d'un appartement, mais sans appuyer très fort, juste un tout petit gazouillis, puis ensuite il prend de plus en plus de détermination. Ce mélange entre discrétion et détermination, je l'ai trouvé vraiment très bien construit. Pas du tout mécanique ensuite dans les gammes, dans les arpèges qui constituent le développement de son propos. Non, j'ai vraiment trouvé que c'était un très bel équilibre entre les différentes facettes qui sont déjà très nombreuses dans cet extrait de tout ce qu'on peut aimer dans ce concerto.
Ouais. Béatrice Mutley, qu'est-ce qui vous a frappé en premier lieu dans cette version A?
Alors déjà, il n'y a rien de très frappant, je trouve, dans cette version A. Je suis positive aussi globalement, mais moins sur le pianiste. L'orchestre m'a beaucoup plu. J'aime bien, on entend très bien, ils articulent de manière... ils sont très proches du texte, on va dire. Des points sont des points, les traits sont des traits. Et puis les nuances, j'aime beaucoup. C'est très nuancé, justement. Il y a une grande variation, puisque ça commence très majestueusement, grandiosement. Et puis après, les pianos sont archi fins. Donc ça, j'aime beaucoup. J'entends que les timbales sont avec des mallettes dures. Donc on comprend tout de suite que c'est une version un peu... informé historiquement, comme on appelle ça, entre guillemets.
Ça, c'est important.
Oui, je trouve, pour du Mozart, quand même. Parce que si c'est joué avec des espèces de grands cotons-tiges, des trucs très, très lourds, le son ne va pas du tout être précis ni honnête à la version originale, on va dire, proche de la version originale. Donc, j'entends ça. J'entends le son des bassons, des trompettes aussi, très beau, je dirais. Autrichien, viennois, je ne sais pas. Mais le piano, pour moi, alors c'est vrai que c'est une partie où il ne rentre pas de manière très... ce n'est pas une entrée tonitruante, il entre un peu par la porte de secours. Je suis là, je ne suis pas là. Il y a quelques petites... En fait, c'est des réponses au matériel de l'orchestre, ce qui fait le piano quand il entre. Mais pour moi, il ne prend pas assez une parole de soliste quand même au fil de l'interprétation, de ce que j'ai entendu là. Je trouve que c'est un peu retenu. Alors, c'est très précis et ordonné, mais je ne trouve pas assez solistique et virtuose. Je trouve que ça ne ressort pas assez de la partition de l'orchestre. Si je veux être un peu méchante, je dirais que c'est un peu pédant, mais c'est peut-être les ornements qui m'ont fait dire ça. Mais je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer trop.
Les ornements du soliste.
Oui, du soliste.
Donc, il s'impose un peu quand même, finalement.
Il a fait quelques ornementations personnelles qui ne sont pas dans le texte qu'il a choisi de faire, et je l'ai... Voilà, c'est bon. Cela ne me plaise pas trop. Mais
intéressant. Alain Lompèche, vous avez acquiescé quand Béatrice a dit qu'il n'y a rien de frappant dans côté soliste.
Non, mais ce qui m'a un peu... c'est positif, mais dans le même temps, je me disais c'est bizarre parce qu'il y a une contradiction entre le fait d'utiliser ces timbales qui sont très précises et en même temps un jeu qui, globalement, me fait penser au concerto de Mozart que j'entendais dans mon enfance. C'est-à-dire que ce n'est pas un Mozart qui va bouger les meubles. C'est très soigné, mais je trouve ça d'une assez grande banalité, pour tout vous dire, du côté de l'orchestre. Mais c'est très bien joué. Et d'ailleurs, ça s'arrange, parce qu'au tout début, je trouvais ça raide et un peu lourd. Et puis, petit à petit, la musique prend le dessus. Et finalement, ça s'arrange. Le piano, c'est très joli, mais... je ne sais pas s'il s'occupe vraiment de ce que fait l'orchestre ou s'il joue tout seul. J'ai quand même l'impression que d'une certaine façon, il est soliste. Et d'une autre façon, je comprends très bien ce que veut dire Béatrice, ça manque de caractérisation. Par exemple, l'entrée, c'est très joli, mais normalement, cette entrée au piano a quelque chose comme d'un étonnement incroyable. Et là, on ne l'avait pas, c'était juste joli. Mais Mozart n'est jamais joli.
Il ne faut pas.
Jamais, surtout pas de Mozart joli. Mais c'est quand même pas mal.
Oui, alors, je rappelle quand même, toujours, Jérôme, ça va vous,
Ça va, je reste.
C'est la version A.
La version A, elle trinque toujours un peu.
Sauf la semaine dernière avec Kubelik et Dvorak. Mais bon, on n'est qu'au début, on va tout de suite passer à la deuxième, la version B. Voilà pour la version B de ce 25e concerto. Est-ce que là, Béatrice Muttley, le soliste est plus affirmé? Il joue mieux son rôle?
Un peu plus, oui, je dirais. Un peu plus, mais c'est encore pas une version où, pour moi, il me convainc et me captive dès le départ. Mais je trouve que c'est plus élégant, c'est plus nuancé. Mais voilà, c'est peut-être que j'ai une version dans ma tête qui est une version idéale.
Hein. Mais ça, laquelle, c'est laquelle?
Parce que je l'ai joué très récemment de nombreuses fois. Donc c'est peut-être, il faut que je me détache de ça. Mais j'aimerais bien entendre dès le départ ce côté enjoué et espiègle qui est tellement propre à Mozart que pour l'instant, je ne trouve pas. Et je trouve que c'est très difficile de sortir en fait du marasme des notes de l'orchestre. En fait, c'est très complet. Il faut s'en détacher. Plus dans cette version, mais pas...
Oui.
Voilà, je trouve que c'est pas encore...
Et quid de l'orchestre lui-même?
Alors là, c'est presque un peu caricatural dans le baroque, enfin dans le style baroque, parce que c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de vibrato, c'est très appuyé, les moments forts sont presque, oui, un petit peu grotesques, je dirais. Alors c'est vrai qu'il a mis majestueux, mais c'est pas non plus pompeux, enfin... Donc je trouve ça un peu trop... Du coup, trop dans la direction baroque, dans l'interprétation, et moins raffiné.
Oui.
L'autre était plus mitigé.
Plus raffiné, oui.
Oui.
Alain Lompèche, vous avez entendu comme Béatrice, sur la même façon que Béatrice, le caractère du soliste ou le...
Pas tout à fait.
Non, ouais.
Non, j'ai trouvé au contraire que quand il est entré... D'abord, je trouve que l'orchestre, là, quitte son rôle d'accompagnateur. C'est-à-dire que dans la première version... On voyait bien que c'est... On enregistre un concerto de Mozart et on joue l'introduction, on va accompagner. Là, non, c'est un vrai acteur à part entière, je trouve. Avec notamment une quantité d'articulation, des phrasés, des prises de parole même dans les instruments avant, qui tout d'un coup, on entend des solistes qui sont intégrés à un tout. Alors bien sûr, le maestoso est un peu martial, parfois, un peu trop. Et ça, j'ai entendu comme Béatrice qu'il y a des accents qui sont quand même beaucoup trop, un peu trop violents, mais qui sont peut-être exacerbés par la prise de son aussi. Mais on écoute un disque, donc on prend tout avec. Et quand le piano entre, j'ai trouvé qu'il avait ce côté un peu oiseau effaré. Il entre là et son piano est plein d'interrogations. Ça pourrait sans doute être encore plus vivant et plus espiègle, mais il n'empêche que j'ai trouvé que c'était une vraie prise de parole. Et qui s'intégrait vraiment bien à ce qui venait de se passer auparavant. Donc j'aime beaucoup ça. Même si j'ai des réserves, j'aime beaucoup. Ça capte mon attention, j'écoute tout.
Oui. Les versions baroques, c'est pas toujours votre tasse de thé,
pas toujours,
Jérôme Bassanelli. Mais aujourd'hui?
Pas toujours. Non, je dois reconnaître qu'elle a beaucoup de caractère, mais elle me fait presque un peu peur, cette version des
débuts.
Il y a un côté un peu tragique, on est un peu, on est saisi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, bon, c'est pas la grande aria solennelle, c'est plutôt quelque chose un peu terrifiant, il m'a semblé, en tout cas, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est pas tout à fait le film que j'ai envie de voir, mais c'est un film intéressant par ailleurs. Il y a un côté très beethovenien aussi dans la manière dont les rythmes sont affirmés, mes collègues l'ont dit. Donc ça, c'était intéressant, mais pas tout à fait ce que j'attendais. Et moi, j'ai préféré l'entrée du piano dans la version A. Là, je trouve que tout de suite, il est déjà plus affirmatif. Moi, j'ai bien aimé la version...
Il est effaré, l'oiseau effaré. Ouais,
j'ai pas trouvé qu'il était tant que ça effaré. Je trouve que pour qu'un oiseau effaré, il est déjà très... Enfin, il est un peu sûr de lui quand il rentre. Alors que j'avais bien aimé cette espèce de discrétion.
Oui, sur la pointe des pieds.
Le gars qui sait pas vraiment s'il sonne à la bonne porte, mais il essaye quand même, quoi. Et là, je ne l'ai pas retrouvé. Là. C'est quelqu'un qui frappe plus vigoureusement à la porte.
Oui.
Il sait qu'il est attendu, donc il a raison en même temps. Oui.
Sur le côté tragique et terrifiant, un peu beethovenien, comme vous dites, je voudrais vous citer quelques extraits d'un texte signé Messiaen. Vous savez qu'en 1964, pendant quelques semaines, Yvonne Loriot, avec l'Orchestre des Concerts Lamoureux, dirigé tour à tour par Boulez, Bruno Manerda et Louis Martin, donne l'intégrale des concertos de Mozart. Et Messiaen signe les textes. C'est devenu un petit livre, paru chez Séguier, qui est formidable, qui est très très beau. Et Messiaen, à propos de ce concerto, dit qu'il est, pour le premier mouvement, sans doute le plus achevé, le plus parfait de tous les premiers mouvements des concertos de Mozart. L'ensemble du morceau a pour clé de voûte le thème rythmique, l'anacrouse de trois croches qu'on entend. Le thème d'introduction, en larges accords de cuivre coupés de silence, frappe dès l'abord par sa majesté souveraine, on songe malgré soi aux plus hautes architectures religieuses, sphinx d'Égypte, pyramides et escaliers du Mexique, temple grec, cathédrale romane, oui, et gothique, vous connaissez le texte, Jérôme. On songe aussi aux appels de trompettes et trombones dans la Flûte enchantée.
Et il parle de Ravel à un moment.
Oui, et de Chopin aussi.
C'est très,
aussi.
Très beau.
Oui, c'est un très beau texte. Ouais. Oui. Et c'est préfacé par Jean-Victor Ocard, qui a signé des très très belles choses aussi sur Mozart. Et il y a donc 22 concertos, il y a 22 qui sont abordés. Et bon, on lira tout à l'heure un extrait du... Parce que Messiaen va très loin aussi dans... Il arrive même à citer Saint-François d'Assise.
Oui.
Dans, à propos du final.
Oui, c'est dans le final, pardon.
Dans le final, absolument. Oui. Voilà. On y reviendra. Mais c'était un écho un peu à... C'est peut-être à ça que vous avez pensé, au Sphinx d'Égypte, quand vous avez entendu la version B, Jérôme. Non,
oui,
je ne sais pas.
Un peu, oui. Sur un Sphinx avec un ciel un peu orageux derrière, quand même.
On passe à la version C.
Thank you.
La version C du premier mouvement du 25e concerto de Mozart. Anna Lompèche, est-ce que le chef et le soliste partagent la même conception ici ?
J'ai l'impression. C'est l'impression que ça m'a donné. Et je trouve que c'est une version qui est extrêmement équilibrée, dans laquelle tous les rouages s'accordent de façon assez merveilleuse. Mais j'ai un énorme reproche à faire à cette version.
Quand ça commence comme ça, généralement...
Non, mais c'est parce que, si vous voulez, ce qui est assez dérangeant, c'est qu'elle est enregistrée comme si c'était une symphonie de Bruckner, oui, avec une réverbération tellement colossale qu'il y a des moments où le son devrait être fini dans la valeur. Il n'est pas fini, que l'autre entre. Et donc, ça a tendance à un peu brouiller tout. Et dans l'introduction, ça m'a gêné plus d'une fois, parce que du coup, ça retire de la respiration. On entend que c'est très bien articulé, très bien phrasé, mais la respiration manque parce que tout est un peu embrouillé. Mais le pianiste est assez épatant, je trouve, parce que il sait à la fois prendre la parole et en même temps se mettre dans l'orchestre et passer de l'un à l'autre avec, je trouve, une très grande écoute de ce que font ses camarades de l'orchestre et de ce que fait le chef. Et pourtant, globalement, ça ne me passionne pas.
Ah bon.
Non, ça ne m'émeut pas beaucoup, mais j'admire ça. Mmh. J'admire la qualité incroyable du travail qui a été fait par le chef, l'orchestre et le pianiste.
Vous êtes plus touché par la précédente.
Elle m'intéresse plus. Ouais. Je ne sais pas si elle me touche plus, mais il y a quelque chose peut-être de plus personnel dans la précédente qu'on peut rejeter, bien évidemment. Ouais. Mais il y a une affirmation que je ne trouve pas tout à fait ici, mais j'admire ça, c'est du boulot.
Et Jérôme Bastianelli n'est pas d'accord sur ce
pas
point.
Pas tout à fait, mais enfin, c'est le principe de l'émission. Je l'ai trouvé assez grandiose, enflammée, mais un peu lourde. Mais je préfère encore la première version qu'on a entendue, que j'ai trouvée plus délicate, peut-être, plus douce, plus équilibrée. Même si il faut reconnaître qu'on entend là des. Il m'a semblé qu'on entendait des cuivres qu'on n'entendait pas dans les deux premières versions, des solos, des accompagnements de cuivres qui ressortaient bien. De même que quand le piano prend la parole, on entend. À certains moments, la main gauche du piano, quand la main droite fait tous ces arpèges, tous ces rubans, là, la main gauche ressort un peu plus que dans les précédentes versions. Donc ça, c'était intéressant. Mais j'ai trouvé, moi, contrairement à Alain, qu'il y avait une différence assez flagrante entre le soliste et l'orchestre. Quoi. Après la première prise de...
Qu'il n'y en avait pas.
Enfin, je veux dire, une différence d'approche.
Ah oui, d'approche.
Et que j'ai beaucoup aimé l'entrée du piano, très volubile et affirmée, avec des qualités plastiques évidentes. Mais dès que l'orchestre prend la parole, on a l'impression que c'était qu'il le grondait, quoi, qu'il y avait un côté très un peu sévère, quoi, comme s'il avait dit des bêtises. Et voilà, je trouvais que ça allait
Mozart,
pas.
C'est Mozart, ça c'est pas
l'interprétation. C'est dans la musique, ça.
Exact.
Ouais. Oui. Voilà, je trouvais que
différence c'était... de point de vue entre le soliste et l'orchestre.
Il y avait
et
en tous les cas un écart, comme une dispute, quoi. Ouais. C'était peut-être volontaire, hein, ouais. Sûrement, mais ça m'a un peu surpris.
Vous trouvez ça aussi ou pas, Béatrice ?
Non, alors moi j'ai trouvé, comme Alain, que c'est très bien équilibré, très cohérent entre ce que fait l'orchestre et le soliste. Enfin, j'ai comme vous eu la même impression que c'était enregistré dans une église ou peut-être au Musikverein. Enfin, je me fais peut-être des films, mais en tout cas, il y avait énormément de résonance. Donc on se dit, ok, c'est un grand orchestre. C'est pas une prise de son de peut-être d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on enregistre plus près de l'instrument. Mais bon, je sais pas, je m'avance. Mais le soliste, j'ai adoré pour l'instant. Enfin, vraiment, c'est celle qui me plaît le plus.
Ah oui.
Parce que je trouve qu'à la note près, il sait quand se mettre en retrait et quand ressortir. C'est-à-dire que quand il accompagne une mélodie d'hautbois, mais ça peut être au milieu de la mesure, tout d'un coup, il disparaît, il ressurgit. Après, il accompagne les violons, il fait ses gammes... en piano, et puis dès que ça s'arrête, la mélodie, le contre-champ, il va reprendre la parole. Et ça, c'est une écoute que j'adore. C'est-à-dire qu'en tant qu'interprète, on doit tout le temps décider qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Il faut faire des choix tout le temps. Est-ce que ça, il faut l'entendre? Est-ce qu'il ne faut pas l'entendre? Est-ce que j'accompagne? Et c'est dans ce que j'ai entendu... C'est très, très bien fait.
Oui, mais dans toutes vos expériences de concerto de Mozart, vous êtes tenté parfois, c'est une question de béotien, pas de musicien, mais de suivre plus le soliste que le chef, dans les intentions données.
par...
C'est le, normalement, le chef devrait suivre les intentions du soliste. Et voilà, bon,
mais
ici,
la façon dont ça se traduit
ici, après auprès des musiciens. Évidemment qu'il sent le piano, donc il donne son avis. Mais a priori, normalement, justement, ça doit être cohérent. Ils se sont vus avant. Ou,
bien sûr,
s'estiment, on peut partir de ça.
Mais parce que vous parlez tout à l'heure de Mitsukochiya, Mitsukochiya qui jouait sans chef.
Oui, elle nous donnait le départ. Là, c'est le violon solo qui va prendre ce rôle-là et qui va... faire en sorte qu'on joue ensemble, mener un peu la chose, mais musicalement, c'est surtout elle qui nous a... Enfin, elle est tellement impressionnante qu'elle va nous faire comprendre ce qu'elle aime comme version.
Qui vous a le plus appris sur Mozart, dans votre expérience au Mahler Chamber Orchestra ou à l'Orchestre du Festival de Lucerne?
Ah, ça, c'est une question piège. Ah. Bah, je dirais Abbado, mais même quand j'aimais la réserve, que Mozart, c'est pas ce que j'ai préféré jouer avec lui. Alors, j'ai beaucoup aimé le travail avec Daniel Harding parce qu'il avait cette approche qui est, on va dire, un peu baroqueuse, mais sans l'être trop. D'ailleurs, il a depuis changé un peu de registre, mais à l'époque, en tout cas, c'était très, il était très inspiré. Enfin, à l'époque, je dis, quand on a commencé à travailler avec lui, très inspiré par tout ce qui est Léopold Mozart, l'articulation, de suivre le texte, vraiment. Ça, j'ai beaucoup aimé, donc ça m'a beaucoup appris. Mais c'est vrai que j'aime plutôt les chefs qui viennent du baroque dans Mozart. Mmh. Arnoncourt, évidemment.
Oui. Avec qui vous avez joué?
Oui, beaucoup.
Donc ce qu'on a entendu là, la version C n'était pas une version...
Non, elle n'est pas tout à fait, mais elle m'a convaincue parce que voilà, il y avait une espèce de symbiose avec le... Voilà, je ne suis pas réfractaire à d'autres versions. Ouais.
On passe à la suivante.
Oui.
Version D. Thank you. Et voilà la version D. Jérôme Bastianelli, est-ce qu'elle a des parentés avec la précédente?
Je l'ai trouvée plus à mon goût.
Vous avez reconnu?
Non.
Non.
J'ai trouvé plus majestueuse, justement, que grandiose. Enfin, c'est, tout ça, c'est des nuances très, très fines, mais en tout cas, elle fait moins peur que les deux précédentes. Il y avait un côté moins tragique qui convient mieux à mon cœur fragile. Et j'ai bien aimé les nuances. Je trouvais qu'il y avait dans l'orchestre un grand jeu de nuances, de construction des nuances, de tension et de calme, de période de calme et de période presque d'accélération, de tension, d'accentuation. J'ai trouvé que c'était assez bien construit. En revanche, les vents, les cuivres n'étaient pas forcément par rapport à d'autres versions qu'on a entendues. On les entendait vraiment très bien. Il y avait un vrai dialogue. Je trouvais que ça pêchait un petit peu.
Un peu lointain.
La flûte, notamment dans le deuxième thème, on l'entend à un moment, elle fait une belle arabesque qu'on n'entend presque pas. Les cuivres font à un moment une rentrée un peu trop discrète. Alors, c'est pas forcément de les mettre au premier plan, mais je trouvais que dans les équilibres orchestraux, c'était pas forcément aussi bien qu'on a pu l'entendre dans les versions précédentes. J'ai beaucoup aimé l'entrée du piano, cette forme d'évidence, là aussi de progression dans la construction du discours, dans les nuances, une grande souplesse aussi du jeu pianistique. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant.
Bon.
Mais je conserve une petite préférence.
Pour la version A.
Nostalgique.
Ah, ça, c'est ça, c'est un signal, voilà. Pour pas que vous la supprimiez tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. Je commence à planter mes clous.
Voilà. Non, mais il a un peu raison quand même. Parce que la version A, quand même, non, je plaisante. La version A, quand même, fait toujours les frais de.
Il faudrait toujours la faire passer. En fait.
C'est ça. Vous partagez l'enthousiasme de Jérôme,
alors, moi, sur l'orchestre, parce que j'ai trouvé. Alors, c'est peut-être aussi la prise de son, mais j'ai trouvé très acerbe le son des violons. Je ne l'ai pas trouvé rond. Presque un peu. Ouais. Trop aiguë, enfin dans la prise de son en tout cas. Je l'ai trouvée lente, mais j'ai beaucoup aimé le pianiste, ou la pianiste. Voilà, donc c'est une version que j'aimerais quand même garder. J'ai trouvé très intelligent Enfin, j'ai envie d'en entendre plus, en fait, de ce jeu de piano. Parce que c'est vrai qu'il entre très piano, mais je trouve ça convaincant. C'est intelligent, c'est un jeu intelligent.
L'équilibre entre le soliste et l'orchestre semble...
J'ai pas trop fait attention à ça. Là, j'avoue que j'ai un peu oublié l'orchestre une fois que le pianiste a commencé, j'avoue.
Ah oui.
Parce que, voilà, en fait, quand je parle de jouer solistiquement, enfin, je l'ai dit dans les versions précédentes, c'est pas forcément de jouer fort, hein. On peut jouer très piano, mais c'est une prise de... Il faut capter l'attention. Quelque part dans le son, Enfin, oui. Il y a un truc tridimensionnel et qui fait que... qu'on écoute, ça peut être dans le timing, dans la nuance, comment on laisse planer la note, est-ce qu'on met de la pédale, je sais pas, moi je connais pas toutes les techniques pianistiques, mais en fait il y a des choses qui font que on est attiré.
Bon, votre voisin a l'air moins convaincu.
Oui, parce que c'est une version dont je dirais qu'elle est historiquement informée, mais pas trop.
Ah, vous trouvez qu'elle est historiquement informée?
Oui, mais pas trop.
Ouais.
Oui, notamment, oui, quand même, pour les articulations et tout, mais ça ressemble un peu à cette espèce de Mozart standard qui s'impose de plus en plus dans les grands orchestres traditionnels. C'est-à-dire qu'on ne joue plus un Mozart complètement symphonique comme on le faisait avant, et pas non plus un Mozart comme on a pu l'entendre dans la version B. C'est une espèce de point d'équilibre assez harmonieux, mais dans le même temps, si j'ai envie d'entendre plus longtemps, c'est parce que j'espère, à un moment, que je vais entendre quelque chose d'un peu incarné. Parce que je n'ai pas beaucoup aimé le pianiste, pour tout vous dire. Non, je l'ai trouvé un peu effacé, pour tout vous dire. Un peu effacé dans l'articulation, dans le son même. Très bien fait, mais ça manque d'incarnation. Il n'y a pas de prise de parole. Le précédent, je trouve, avait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il savait prendre la parole, il savait se taire. Passer en dessous, revenir. Là, non. Là... C'est quelqu'un qui joue très bien la partie d'un concerto pour piano de Mozart et qui est très bien accompagné par un chef qui accompagne très bien un concerto de Mozart. Et ça me gêne un peu, ce Mozart, on va dire, international.
Oh.
Très beau. Non mais très beau, c'est très beau.
Consensuel.
Mais consensuel, oui. Voilà.
Jérôme n'est pas du tout d'accord, je traduis les mimiques je vois de Jérôme. Qui...
J'entends, alors.
Non mais c'est très beau, mais ça a quelque chose de consensuel qui... peut-être que pour ce concerto-là, je pourrais l'accepter plus facilement que d'autres, parce qu'on ne l'entend pas souvent, en fait. Hein? D'ailleurs, c'est une des raisons qui font qu'il n'a jamais été à la tribune. En tout cas, à Paris, on l'entend très peu. On l'a entendu récemment, admirablement bien joué,
ici,
par Piémontesi.
Par Piémontesi,
extraordinaire,
national,
extraordinaire. Mais on l'entend très peu souvent. Et donc,
Piémontesi qui l'a enregistré, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, il l'a enregistré, oui. Et voilà, donc, c'est très beau, mais ça, ça ne me parle pas, on va dire.
Version E. La version E. Autre c'est... regard, non, Béatrice?
Oui, c'est dommage que vous coupiez juste là où il commence le deuxième. J'aurais bien aimé...
C'est un long extrait déjà, on est forcé, hélas, hein, c'est la règle de l'émission de voir les extraits.
Mais justement, ce mouvement, il est tellement... On passe tout le temps du majeur au mineur, et il y a des thèmes d'une tristesse infinie, alors que le début ne présage pas de tels...
Mais vous aviez envie de continuer avec cette version, alors?
Oui, c'est vrai.
Pourquoi?
Non, j'ai aimé le jeu du soliste, j'ai trouvé ça enlevé et c'est vrai que j'avais envie de suivre. J'ai trouvé que l'orchestre, alors, n'était pas du tout du niveau du soliste, je ne sais pas, mais je trouve que quand on atterrit sur la tonique de manière... Enfin, en fait, ça c'est un signe d'un manque de culture musicale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atterrir, sauf si c'est marqué explicitement par le compositeur. Quand en musique classique, on ne joue pas, on n'appuie pas les toniques les premiers temps, on ne fait pas ça. Enfin, surtout à la fin d'une gamme, c'est vraiment un manque de culture, je dirais. Et quand un orchestre le fait, ça me dit que l'orchestre, il le joue comme s'il jouait n'importe quelle symphonie qui avait été mise sur le pupitre le matin. Enfin, je suis peut-être un peu cassante là, mais pardon, je vais me reprendre. Mais je trouve que ça sonne comme si, il ne savait pas qu'il jouait du Mozart, en fait, ça pourrait être du Brahms, mais même dans Brahms non plus, on n'appuie pas les toniques, il ne faut pas appuyer l'évidence en fait, on se retire. Et dans les autres versions, ça ne m'a pas choquée.
Là,
Oui. Donc j'ai été un peu déçue par l'orchestre, même si ça sonne, évidemment, c'est un bon niveau, hein, c'est certainement un très bon orchestre, mais je veux dire, ce n'est pas un orchestre qui est sensible.
Quoi, au discours mozartien?
Voilà, exactement.
Ouais.
Qui est quand même un autre discours. Enfin, en tant que musicien, il faudrait savoir parler plusieurs langues.
Ouais. Et on est loin des versions historiquement.
C'est vraiment un petit peu.
C'est peut-être ça qui vous gêne, non?
Non, mais c'est pas ça, parce qu'on peut. C'est pas convaincant non plus, parce qu'il y avait une version que j'aime beaucoup, ce qui est la troisième, qui n'est pas très historiquement informée, qui me plaît pourtant beaucoup. Mm-hmm. Donc c'est quand même aussi quelque chose de la finesse. Voilà. Après, le pianiste, j'aurais aimé en entendre plus, je sais pas, mais j'ai trouvé très. Très enlevé.
Vous auriez aimé entendre plus du soliste ou pas?
Oui.
À la
l'empêche. Oui. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des choses un peu contradictoires, parce que d'une façon générale, je trouve que la dramaturgie de l'introduction d'orchestre était très bonne. Mais qu'en revanche, effectivement, cette façon d'appuyer les débuts... C'est marrant, je viens d'assister à plein de cours d'interprétation donnés par Bruno Rigotto au Listomania à Châteauroux. C'est un reproche qu'il faisait à quasi tous les candidats. D'appuyer les débuts de phrase.
Ou de faire une longue note à la fin d'une gamme.
Et alors, il parlait, il dit, mais vous ne parlez pas comme ça. Donc, n'appuyez pas. Et donc, voilà, c'est un peu gênant. Mais je trouve que la dramaturgie générale a quelque chose de très vivant, de très enlevé, de très actif.
Très maestoso.
Oui, très maestoso. Ouais. Et puis, on entre dans le vif du sujet. Voilà. Et puis, le piano entre et... Je le trouve vraiment, il est formidable. C'est-à-dire que il y a un côté très aux aguets, très vivant. Il prend la parole, c'est incarné. Vous voyez, il y a quelque chose d'incarné dans son jeu qui ne l'était pas dans le jeu du pianiste précédent, par exemple. Et donc, oui, j'ai envie d'aller plus loin, et même si je râle un peu.
Oui, oui, ça c'est normal.
Bah oui,
vous, Jérôme.
Oui, j'ai envie d'aller plus loin aussi. Oui. Moi, j'ai bien aimé, je reconnais plein de défauts techniques, presque un peu foutraque, quoi, l'introduction orchestrale, avec en effet des exagérations, des choses un peu étonnantes, mais je trouvais que le caractère avait un caractère festif dans cette. On n'avait pas peur, là, pour le coup. C'était vraiment la fête pour l'anniversaire du roi.
Il y avait du panache,
de l'enthousiasme, de l'entrain, peut-être même trop d'enthousiasme qui fait. On n'est jamais trop enthousiaste, mais on perdait de vue une forme de rigueur interprétative, comme ça a pu être dit par Béatrice, au profit. Une sorte de vie.
Voilà, oui, c'est le côté folle journée.
Voilà, un peu improvisé, presque une forme de spontanéité de la joyeuse, quoi, qui m'a quand même bien séduit. Et sur le pianiste, j'ai pas beaucoup de choses nouvelles à dire par rapport à ce que Alain et Béatrice ont pu dire. Mais j'ai bien aimé son côté affirmé, la variation, les nuances, tout ça, c'était là. Et effectivement, on a envie de l'entendre un peu davantage. Donc c'est un bon signe.
Et ben on verra. La dernière, la F.